Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Jérémie, le 50e chapitre. Pourquoi Jérémie? Ce soir, nous interrompons la série Champ de vision pour vous présenter un message bien, bien, bien spécial. Je crois qu'il vient du Seigneur Jésus. Pourquoi le livre de Jérémie? Parce qu'au mois de janvier, nous avons déclaré un jeûne de 21 jours à l'Église Nouvelle Vie. Et certaines personnes, le pasteur Claude et moi et d'autres, on a jeûné 21 jours complets. Pendant ce 21 jours, le Seigneur a aspiré complètement mon cœur dans le livre de Jérémie. Ce soir, je vais vous parler d'une parole, je vais vous présenter une parole que le Seigneur a donnée à mon cœur. Ce soir, le PowerPoint, Alice, il faudra que tu lises mon cœur, parce que moi, j'oublie le PowerPoint maintenant. Il faudra juste me suivre. Ce soir, je suis venu vous proclamer la chute de Babylone. Je suis venu proclamer la chute de l'Empire de Babylone. Je m'explique. Il y a à peu près un mois de ça, j'étais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et je marchais avec un frère de l'Église Nouvelle Vie qui s'appelle Patrick Sinette, qui a été nommé le tout nouveau directeur du ROC à Montréal. C'est un centre pour jeunes qui présentement ne font que nourrir les jeunes, mais est en train de préparer un programme qui dans les prochains mois, on va vous en parler, on aimerait ça s'impliquer un peu pour les aider, pour un genre de centre même de réhabilitation sur la rue Baudry à Montréal. Priez pour lui, il est en train de tout préparer ça. Et on est allé ensemble, on a dîné ensemble sur un restaurant au Saint-Hubert Barbecue, juste au coin de Sainte-Catherine. Et on a eu un moment divin ensemble, on pleurait même dans le restaurant pour les jeunes, ont été vraiment touchés. Et alors qu'on marchait sur la rue Sainte-Catherine et qu'on s'en retournait sur la rue Baudry et tout ce quartier qui est là, mon cœur avait une tristesse, mon cœur sentait une lourdeur et dans la prière, même plus on marchait sur la rue, plus je voyais, je regardais les gens autour de moi, ils me racontaient déjà quelques histoires de quelques cas de jeunes qu'ils ont rencontrés, à peu près 150 à 200 jeunes à tous les soirs, entre 17h et 19h viennent pour recevoir un repas. Ce sont tous des jeunes qui dorment sur la rue. On dit qu'à Montréal, pour une population de 2 millions d'habitants, plus ou moins 2 millions d'habitants à Montréal et ses environs. On va toucher jusqu'à 3 000 jeunes qui vont dormir sur la rue l'été. Moi, je suis déjà allé au Dream Center à Los Angeles, en Californie, et alors qu'on est monté sur le toit du Dream Center, ils nous ont dit que pour une population à Los Angeles, pour la population de Los Angeles, il y a à peu près 2 000 jeunes qui vivent sur la rue, mais ça, c'est une population d'à peu près 8, 9, 10 millions d'habitants. Montréal a délibérément, probablement, le plus haut ratio de jeunes qui dorment sur la rue, probablement de toute l'Amérique du Nord. Et alors qu'on était là ensemble et qu'ils me montraient des quartiers, ils me racontaient quelques histoires avec des jeunes vraiment, vraiment, vraiment en difficulté, des jeunes qui souffrent énormément. J'étais là avec lui, il y avait une tristesse dans mon cœur et c'est comme si je voyais, c'est comme si même à travers la prière et même à travers ce jeûne de 21 jours du mois de janvier, c'est comme si tranquillement il y a une nouvelle facette du monde spirituel qui s'est ouverte à mon esprit et à mon cœur. Et alors que j'ai embarqué sur le pont Jacques-Cartier, que je me dirigeais vers Longueuil, la rive sud, je passais et je vous le dis ce soir, bien ouvert à Impact Jeunesse, on se parle cœur à cœur, bien ouvert, j'ai toujours senti une grande aisance à partager mon cœur ici, même avec larmes, j'étais dans mon automobile et sachant que à ma droite, en bas, il y avait tout ce quartier-là et je regardais Montréal et je voyais la tour de Radio-Canada qui diffuse, qui promulgue tellement de valeurs anti-bibliques à chaque jour et je regardais derrière le centre-ville avec toutes ses tours, ces empires financiers qui sont là. Et j'étais intimidé, j'étais triste. Je me sentais down, si vous me permettez cet anglicisme. Je me sentais abattu, l'âme abattue. Et je prenais ce temps pour regarder l'autre côté, le quartier est du pont Jacques-Cartier, alors qu'il y a quelques années de ça, le pasteur, aujourd'hui qui est pasteur dans une église, Richard Paré, qui a été guitariste pour Jerry Boulet, un vieux chanteur québécois que vous connaissez pas probablement, qui habitait dans ces quartiers-là, m'a fait visiter, m'a fait un peu marcher sur la rue. Et il me montrait, ça c'est une piquerie, ça c'est des prostituées qui sont là. Et on voyait toute la souffrance ensemble. Il y avait une compassion pour ces gens dans mon cœur, il y avait un amour, il y avait un désir de les aider. Mais en même temps, il y avait un abattement. Il Il y avait une tristesse. Il y avait un sentiment que c'est trop fort pour moi, Christian Robichaud. Ce sont des forteresses imprenables. Ce sont des gens, on peut pas se permettre de rêver de voir de telles personnes venir à Jésus. Des gens qui se rendent des aiguilles dans une veine pour prendre de l'héroïne. Je suis pas encore rendu là. Je suis pas encore assez digne. Je suis pas encore assez fort. Je suis pas encore assez proche de Dieu, moi, Christian Robichaud, pour voir des gens comme ça venir à Jésus. Et alors que toutes ces idées bourdonnent dans ma tête, avec l'arme dans mon automobile, je redescends sur le pont Jean-Cartier vers Longueuil. Et là, je pensais à toutes les statistiques que j'entends. Pasteur Béa qui me disait que Longueuil-S est là où il y a le plus haut ratio d'abus sexuels de toute la Montérégie, probablement peut-être même du Québec au complet. Et de connaître ces faits-là, ma fille qui va dans une école alternative, une école qui a un enseignement un peu différent des autres écoles. Et puis on l'a inscrit à cette école-là parce que c'est bien interactif, c'est bien le fun. Il y a toutes sortes de projets dans l'année. Puis dimanche dernier, il faisait un salon dans une école, toutes les écoles ensemble, c'est vraiment le fun. Sauf que l'école est située dans un quartier difficile de Longueuil, un quartier, on se le cachera pas, où régulièrement, quand je vais la chercher à l'école, ou la visiter, ou la voir, parce qu'on doit s'impliquer à l'école, je croise des automobiles de police, je croise des scènes avec des rubans de scènes de crime, je croise des gens régulièrement, où ce que, même parfois en faisant mon jogging, je croise, j'entends des chicanes matrimoniales, des gens qui argumentent ensemble dans les maisons, dans les appartements. Et tu vois Longueuil, alors qu'on cherche à aimer ces gens, qu'on cherche à aller les atteindre pour Jésus, il y a comme une intimidation qui vient. Il y a comme une réalisation aussi de plus en plus dans mon cœur de dire, oui, il y a Longueuil, oui, il y a Montréal, mais j'ai l'impression, et c'est comme si Dieu ouvre mes yeux, il y a aussi une autre ville invisible derrière tout ça. Il y a aussi une autre, une sorte de société invisible derrière ce monde que la Bible appelle Babylone, et je veux vous en parler ce soir. Et tu regardes alentour de toi, je n'ai jamais vu, les jeunes, écoutez-moi ce soir, je n'ai jamais vu autant de sensualité, de sexualité sur les panneaux publicitaires, sur les autoroutes, les boulevards, les rues alentour de nous. Je n'ai jamais vu autant de sensualité. Laissez-moi vous dire, j'aimerais vous dire ce soir, écoutez-moi bien, il existe un empire invisible. On entend souvent parler du royaume de Dieu à l'Église. Jésus a parlé beaucoup du royaume de Dieu dans les Évangiles, mais la Bible parle aussi d'un autre royaume, d'un autre empire invisible, un autre système organisé du mal. Le monde alentour de nous qui ne croit même pas en Dieu le reconnaît, le voit qu'il existe un monde qui est de plus en plus mal, le voit qu'il y a le mal et qu'il y a le bien dans le monde. Mais la Bible parle que c'est pas juste la présence du mal dans le monde, mais que ce mal est organisé, ce mal est réseauté. Il y a un réseau du mal, une organisation du mal que la Bible parle et l'expose. Et c'est extrêmement important que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux ce soir, que tu puisses voir que la Bible appelle ce mal, cet empire Babylone, l'empire du mal, un empire qui s'élève contre Dieu. Et alors que je regardais tout ça, et quand t'entends parler que 70% de l'utilisation d'Internet est à caractère pornographique, laissez-moi vous dire, des gens qui ne croient même pas en Dieu, des gens qui ne viennent même pas à l'Église, sont d'accord pour dire qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Comment ça se fait que ça va de mal en pire? Comment que ça se fait que c'est toujours plus haut? Pourquoi les publicités sont toujours de plus en plus jusqu'aux limites de qu'est-ce qu'on peut, le CRTC peut permettre de montrer comme nudité? Mais laissez-moi vous dire, même une femme qui croit pas en Dieu va être d'accord avec moi de dire, c'est mal à l'aise. Il y a une majorité, je crois, québécoise, silencieux, qui ne se prononce pas, mais qui est mal à l'aise et qui, dans son cœur, rejette silencieusement toute cette sensualité alentour de nous. Ne pensez pas qu'une femme qui est dans son automobile avec son conjoint, ça lui fait plaisir de voir une femme en petite culotte mesurant à peu près 10 pieds de haut par 3 pieds de large comme ça. Pensez pas que ça y fait rien. C'est certain que ça fait quelque chose à la pensée que son conjoint regarde ça, que son mari regarde ça, que son petit enfant, son petit garçon de 8 ans regarde ça. Ça leur fait quelque chose. C'est certain. Il existe ce système invisible alentour de nous que la Bible appelle Babylone. Elle appelle l'empire du mal qui fait la guerre à chaque être humain sur la planète Terre. Elle appelle Babylone. Il y avait une tristesse dans mon cœur de, c'est comme si Dieu ouvrait mes yeux, que je voyais de plus en plus comme cette organisation alentour de nous. Il y a une tristesse qui est venue sur mon cœur jusqu'à temps que j'ouvre la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, le Seigneur m'y attendait. Le Seigneur avait une parole pour moi que je veux vous proclamer ce soir. Le Seigneur a proclamé la chute de l'empire du mal, la chute de Babylone. Regardez avec moi ce soir dans Jérémie, le 50e chapitre. Jérémie 50, et le verset 2 va apparaître à l'écran pour ceux qui n'ont pas une Bible. Annoncez-le parmi les nations. Faites-le entendre. Élevez une bannière. Faites-le entendre. Ne le cachez pas. Dites, Babylone est prise. Bel est couvert de honte. Merodach est terrorisé. Regardez-moi ici un instant ce soir. Ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie historiquement 70 ans plus tard. Mais la Bible est plus qu'un livre d'histoire. La Bible est là plus que pour nous montrer que ce que le prophète Jérémie a prophétisé s'est vraiment accompli 70 ans plus tard, et c'est un fait historique, approuvé, reconnu par des historiens séculiers, même non chrétiens, vont vous dire c'est vrai, en telle année, 70 ans après telle année de la prise de Jérusalem, c'est vrai, l'empire babylonien est tombé en une nuit, exactement comme Jérémie le prophétisé. Des historiens qui lisent même pas la Bible, on vous dit c'est vrai, mais la Bible est là plus que pour nous montrer que Dieu connaît l'avenir. Il y a aussi dans cette prophétie-là une parole pour non seulement l'empire babylonien qui était là à l'époque, mais une parole donnée à Jérémie pour un autre empire derrière l'empire babylonien qu'il y avait à l'époque, un empire invisible, un Babylone que Dieu va appeler Babylone invisible qui est là derrière l'empire babylonien de l'époque. Quand tu entends le mot Bel et couvert de honte, Merodach est terrorisé, peut-être que ça ne veut rien dire pour toi, mais Bel, c'est la plus vieille idole de l'Ancien Testament. C'est le plus vieux dieu païen connu dans la Bible. La première idole qui vient confronter, qui vient outrager Dieu dans toute la Bible, c'est la statue, c'est une petite statuette de Bel, c'est le plus un dieu de Mésopotamie, un des plus vieux dieux, c'est la tour de Babel dans l'Ancien Testament, c'était la tour de Bel, la tour de ce dieu-là. L'empire babylonien au complet était bâti sur la croyance de ce dieu-là. Bel est une image de l'ennemi. Bel est une représentation, une idole visible de l'ennemi de Satan qui existe, qui est vivant partout autour de nous, des gens qui, c'est incroyable, c'est sans aucune honte ce soir que je peux vous parler de mon ennemi, sans avoir un moment, un doute que quelqu'un pense que je suis fou, parce que partout alentour de moi, les gens croient au bien ou au mal. Dans toutes les religions du monde entier, les gens croient un mal organisé, les gens croient un bien organisé, avec un système du mal, avec des esprits du mal, les gens vont croire ça, les gens d'Amérique du Nord croient aux esprits malins, croient aux esprits qui sont mal, vont croire à Satan. Regardez juste comment Hollywood n'a aucune honte de promulguer, de diffuser des centaines de films d'horreur. Je n'ai aucune honte un instant ce soir à vous dire que Satan existe. Même pas aucun doute que pendant un instant, quelqu'un pense que je suis fou. Parce que c'est vrai, les gens savent qu'il existe. Et Bel est celui qui le représente dans cette histoire. Et Dieu parle d'un moment, une victoire incroyable qui prend place, où pendant un instant, pendant un long moment, mais ça se met comme un instant, la Bible nous dit, Bel est couvert de honte. Tout son empire, tout ce qui a monté, toute sa puissance s'est effondré. Il est couvert de honte. Merodach, c'est juste un autre synonyme pour Satan. Terrorisé. Il arrive un moment dans l'humanité, il arrive un instant dans l'histoire où l'ennemi est couvert de honte. Il est terrorisé par qu'est-ce qui prend place. Juste, je vous expliquer un instant ce soir le contexte dans lequel ça a été écrit, ce texte-là. Je vais vous montrer la prochaine acétate ce soir. Le contexte de la prophétie de Jérémie, au 16 mars, selon les historiens, ça serait arrivé le 16 mars en l'an 597 avant Jésus-Christ. Vous avez derrière moi une photo, ce qu'on appelle les jardins suspendus, pas une photo, mais une peinture de ce qu'on appelle les jardins suspendus, que fort probablement c'était extrêmement près de cette peinture que vous voyez derrière moi. Il y avait aussi à Babylone une espèce de tour qui était comme la reconstruction de la tour de Babel. C'est là que les Chaldéens ont inventé. Ce sont les fondateurs de l'astrologie, étudier le ciel. Ce sont les Chaldéens à l'époque. À l'époque de Jérémie, il y avait cet empire qui contrôlait le monde, qui avait une influence sur le monde entier. Et cet empire, au sommet de sa gloire, est venu, a détruit Jérusalem alors que Jérusalem était loin de Dieu, que Dieu s'est retiré de Jérusalem, que laissez-moi, je rewind, Jérusalem a mis Dieu dehors. se sont retrouvés tout seuls, ils voulaient rien savoir de Dieu. Alors, toute la protection s'est enlevée sur eux. Nébuchadnezzar est venu. Nébuchadnezzar, c'est connu, c'est un fait historique. Les historiens vont l'appeler Nébuchadnezzar. Mais il est venu, il a pris Jérusalem. Et alors qu'il prend Jérusalem, la Bible nous dit qu'il avait une protection divine sur le prophète Jérémie. Il n'a pas été emporté, mais il a donné, il a écrit tout le chapitre 51 et 52 dans la parole de Dieu, toute une prophétie contre Babylone, prophétisant la destruction de Babylone. Et vous pourrez lire, il y a des détails incroyables sur qu'est-ce que la Bible a dit, qu'en une nuit, la Bible a dit qu'ils allaient faire une grande fête. Jérémie dit qu'ils étaient en train de faire une grande fête et de s'enivrer. Et cette nuit-là, boum, l'ennemi est venu. Et tout l'empire a chuté en une nuit, et c'est exactement arrivé comme cela, et on le voit aussi dans le livre de Daniel, mais écoutez-moi bien ce soir. Alors que Jérémie a tout écrit ça dans un rouleau, il a fermé le rouleau, il a mis une pierre, il l'a donné à son serviteur, puis il a dit, va avec les déportés à Babylone. Et son serviteur est allé à cet endroit-là, où tu vois la rivière derrière, et il a ouvert le rouleau, il a lu la prophétie contre Babylone. Il a lu la prophétie contre Babylone. Il a dit, Babylone va tomber. Ne le cachez pas. Proclamez-le. Dites-le. Imaginez-vous cette immense empire dans toute sa gloire. Il n'y a rien qui te laisse voir. Tout ce qui frappe à tes yeux, c'est sa puissance, c'est sa grandeur. Elle domine sur le monde entier. Il y a une espèce de jeune serviteur qui a un petit clown qui rouvre un rouleau sur le bord du fleuve, comme Jérémie lui a dit. Puis il se met à dire, tout ça va tomber, ça va tout s'écrouler. Et Jérémie lui a dit, après, tu vas refermer le rouleau. Tu vas mettre une pierre, tu vas lancer dans le fleuve qui est là, et tu vas dire, comme le rouleau tombe dans le fleuve et s'efface à tout jamais, ainsi Babylone sera effacée et disparaîtra à tout jamais. J'aimerais vous proclamer ce soir, les jeunes, la chute totale de l'empire de Babylone. Savez-vous quand est-ce qu'elle a lieu? Il y a un moment marquant dans l'histoire de l'humanité où tout l'empire du mal a chuté au complet. Et c'est l'instant où Jésus est allé à la croix pour toi et moi. Le moment où Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit, tu vois ce qui s'est passé aux enfers. La Bible nous dit que Jésus est descendu aux enfers. Tu vas avoir un petit glimpse, tu vas avoir une petite fenêtre sur ce moment où Jésus est descendu aux enfers, qu'il est mort sur la croix, il a porté tout le péché du monde. La Bible, tu le vois dans Jérémie 50, verset 2, tu vois la Bible nous dit à ce moment-là, l'ennemi était terrorisé de voir Jésus venir, lui arracher les clés de l'enfer, lui prendre toute son autorité, lui prendre toute sa puissance, lui prendre toute sa force. La Bible nous dit à ce moment-là, Jérémie 52, Bel a été, Satan était couvert de honte, terrorisé de voir Jésus entrer dans les enfers et venir lui prendre toute la puissance. Et ça, ce soir, c'est une proclamation pour chaque jeune qui est ici. Dieu t'appelle à marcher dans la victoire, à marcher dans un triomphe, à ne pas te laisser intimider par quoi que ce soit de ce monde, parce que nous sommes appelés à marcher dans la victoire, à triompher. Je suis venu ce soir avec l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, je le crois de tout mon cœur. Venez vous proclamer la chute complète et totale de Babylone. Premièrement, à quoi est-ce que Dieu nous appelle? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à proclamer? Premièrement, la réalisation de son existence. Et deuxièmement, la destruction de son influence. Premièrement, la réalisation de l'existence de cet empire. Écoutez-moi bien. Partout dans la parole de Dieu, la Bible en parle. La Bible mentionne dans les proverbes. La Bible va imager ce système mondain comme une femme qui se tient de l'autre côté de la rue, qui va tenter un homme. C'est pas juste, ça représente pas juste le péché de la sexualité. Dans les proverbes, ça représente aussi ce système invisible du monde qui est là pour tenter. Les proverbes en parlent comme une femme qui se tient à l'autre côté de la rue et qui tente un homme. Et la Bible nous dit que sa maison, elle amène l'homme dans sa maison, mais sa maison penche vers la mort et vers le précipice. Tous les prophètes en ont parlé de cet empire de Babylone. Tous les prophètes ont proclamé. Tu peux l'appeler Ammonite. Tu peux l'appeler prophétie contre les Ammonites, prophétie contre l'Égypte. Name it. Il y a toujours aussi derrière ces prophéties un aspect invisible d'un Dieu qui désire t'offrir une victoire sur le péché. Un Dieu qui désire te tendre la main, t'offrir une vie de victoire, de liberté, de triomphe sur n'importe quelle passion qui te retient à l'intérieur, n'importe quelle chose qui te retient dans ta vie, peu importe le péché, il existe dans la parole de Dieu une vie de victoire. Elle est proclamée, Dieu en parle, que ce soit dans les proverbes, que ce soit dans les prophètes. Jérémie va l'illustrer comme un immense empire babylonien. Jésus va en parler souvent comme en parlant comme le monde. Quand Jésus parle en disant j'ai vaincu le monde, il ne parle pas qu'il a vaincu des êtres humains. Non, Jésus n'est pas venu vaincre des êtres humains. Jésus n'est pas venu faire mal à des êtres humains. Jésus, il ne parle pas du monde en parlant des êtres humains. La Bible nous dit que Jésus, il dit j'ai vaincu le monde en parlant d'un système, un invisible, une organisation qui désire, elle, détruire les êtres humains. L'apôtre Paul va en parler comme la nature de la chair. Une nature en chacun de nous. Que si on ne veille pas sur notre vie chrétienne, elle fait la guerre à Dieu, la chair. Une nature charnelle qui ne veut pas, qui est rebelle. La Bible le dit dans Romains, elle est rebelle. Elle fait la guerre aux choses de Dieu. Et dans l'Apocalypse, Jean, Dieu a donné une vision à Jean au sens figuré. Pas au sens propre, au sens figuré. Pour qu'il puisse saisir, comprendre ce qui est dans le monde invisible. Il lui présente une mer, un océan, en lui disant, ça c'est l'humanité, l'ange va dire à Jean, ça c'est l'humanité, ça représente la race humaine. Il va dire de toute langue, de toute culture, de tout peuple, à travers les générations. Et sur tous ces hommes-là, il voit sept montagnes qui représentent des empires humains. Des empires, que ce soit l'Égypte, que ce soit Rome, que ce soit le dernier empire mondial qui va venir, que ce soit Babylone, que ce soit, peu importe comment tu veux le nommer, ça représente les empires humains. Et sur ces empires-là, la Bible nous dit, il y avait une bête qui représente l'ennemi. Une immense bête qui siégeait sur tous les empires. Et la Bible dit, sur cette bête, il y avait une prostituée. Et son nom était Babylone. Un système. Et la Bible nous dit, elle s'enivrait du sang des chrétiens. Elle fait la guerre aux chrétiens. Tu le vois partout dans la parole de Dieu. Tu le vois aussi partout alentour de nous. Et des gens qui croient en Dieu, toutes sortes de personnes, des gens qui croient en Dieu, des gens qui ne croient pas en Dieu, en parlent. Juste un exemple, ce sont juste le groupe rap Cross Movement, disent dans une chanson, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu dit cela en parlant de l'être humain. Car le monde est un système. Ne parle pas que Dieu aime le monde, que Dieu aime le monde, Dieu aime le péché. Le monde est un système, une façon de faire et de vivre incroyable. Dim Bassler, un des chanteurs de Cross Movement, exactement d'accord avec moi. La chanson dit, de toute façon, c'est moi qui ai écrit sa chanson. Dans la chanson, ça dit, il dit ceci. Je fréquentais une fille, son nom était le monde. Maintenant, j'ai un ami et son nom est Jésus. Chanteuse tellement connue dans le monde séculier, Lauryn Hill, qui dernièrement a proclamé sa foi en Dieu très ouvertement. Je suis pas là ce soir pour me proclamer ou pour me prononcer sur sa foi, pour dire est-ce qu'elle est chrétienne ou pas. C'est pas ça le but ce soir. Elle va bientôt lancer un livre qui s'appelle The Middleman, qui est annoncé sur Internet. Et juste, voici juste une phrase dans son livre, juste une phrase. Qui dira ce qui doit être dit? Et qui fera ce qui doit être fait sans compromis? La vérité ne sera jamais populaire. Toute l'humanité vit dans une illusion, mais en souffre des conséquences réelles. Des milliers, des millions de personnes ont été voir dernièrement le Seigneur des Anneaux. Des non-chrétiens et des chrétiens. Je ne sais pas si on peut me prononcer ce que ces films-là sont bien ou pas. C'est pas ça du tout mon point. Savez-vous ce qui me fascine? C'est de voir ces films-là qui proclame tout simplement, montre pas tout de suite la prochaine, de voir ces films-là qui proclament tout simplement un royaume du bien qui fait la guerre à un royaume du monde. Et là, tout à coup, il y a un réveil au cinéma, tout le monde va au cinéma, tout le monde est impressionné, la Bible en parle depuis toujours. De voir un film comme La Matrice, The Matrix, tu peux montrer la prochaine image, un film comme La Matrice qui a fasciné les concepteurs de films, de dire on n'a jamais vu une telle idée avec un monde, c'est que dans le fond tout le monde est endormi, tout le monde est engourdi, tout le monde vit dans un monde d'illusion parce que le vrai monde dans lequel on est supposé vivre, on est tout comme engourdi puis endormi dedans puis tout le kit. Puis là finalement il y en a un qui se réveille, c'est comme un peu le Messie sauveur Néo qui vient, il change il transforme l'humanité puis il vient aider puis ouf, il peut voler dans le ciel. Puis si tu y crois pas à la matrice, tu peux dominer la matrice. Oh ouais, ça vraiment fort. Puis Ça, c'est une, ça là, c'est juste une illustration. Je suis pas là pour vous dire ce soir que ce film-là est bon. C'est un film, je trouve, qui est sombre et violent. Et que même, surtout dans les derniers, je les ai pas vus, mais qu'il y a de la sensualité, tout ça dedans. Je suis pas là pour me prononcer sur ce film-là. Mais écoutez-moi bien ce soir. Tout le monde est impressionné par comment c'est ingénieux ceux qui ont inventé, qui ont écrit les scripts de ce film. Laissez-moi vous dire, la Bible en parle depuis toujours. Depuis extrêmement longtemps. Il existe cet empire invisible, Babylone, qui veut t'avoir, qui veut t'attirer, qui veut t'engloutir. La Bible dit dans Jérémie, Dieu dit à Babylone, et Dieu va aller chercher ce que tu as englouti. Tu as englouti, avalé des gens, tu as avalé des vies en toi. Si le monde séculier le voit, il le réalise. Des chanteuses comme Lauryn Hill, Cross Movement n'ont aucune honte de dire qu'il existe vraiment une Babylone invisible. Laissez-moi vous dire ce soir. J'entends Dieu qui crie à mon cœur dans Jérémie 52. Ne le cache pas, Christian. Proclame-le. Dis-le aux jeunes. Il existe une Babylone qui les veut, mais va surtout leur proclamer la victoire. Va surtout leur dire de ne pas se laisser attirer, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se sentir vaincu par ce qu'ils entendent alentour d'eux. Il y a une victoire spirituelle dans les lieux célestes présentement pour celui qui veut sortir de Babylone et commencer à marcher avec Dieu. Cependant, ce soir, j'aimerais vous demander de gérer cette information avec une grande sagesse. Voici ce que je veux dire. Une révélation, la réalisation de son existence, ça doit être traité avec sagesse. C'est quelque chose qui nous garde terre à terre plutôt qu'alarmiste. Elle est centrée sur la croix et non sur des esprits. Commencez de vraiment réaliser que ce monde-là existe alentour de nous. Il ne faut pas faire de toi quelqu'un qui va commencer à voir des esprits, des affaires bouger partout. Oh man, je pense qu'il y a des démons dans les bébites l'été et tout le kit. De garder une vie centrée sur Jésus. Oh man, elle a pris ma place dans l'autobus. Ça, c'est Babylone, une espèce de babylonienne. Elle m'a coupé en auto, c'est un babylonien. Elle nous rapproche de Jésus. Et non des discussions sensationnalistes. Ah, t'as-tu vu ça? Ça, c'est Babylone. Pastor Chris a dit, Pastor Chris a prêché. Non. C'est un message qui désire nous rapprocher de Jésus. Et non nous rendre sensationnalistes. Ah ouais, on va aller se louer la matrice. On va voir les parallèles dans la Bible. C'est pas ça du tout le but. Elle nous tire vers la prière et non vers le jugement. Commencer à juger les autres. Ah, lui, il n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus. Ah, il est encore à Babylone. Hey, j'ai assez hâte qu'elle sorte de Babylone. T'es-tu à Babylone, toi? T'es-tu un Babylonien ou t'es un chrétien? Ah, parce que Christ a dit, soit t'es avec la prostituée de l'Apocalypse, ou soit t'es avec l'épouse de Christ, tu sais. Fait que, faut-tu... Non. Elle nous tire vers la prière et non vers les jugements. Elle suscite l'amour et non les préjugés. Elle ne justifie pas l'hyperbole, ça veut dire l'exagération. Mais elle justifie d'être de plus en plus sage avec nos vies. J'aimerais vous dire ce soir, il existe un empire invisible qui fait la guerre à l'Église. Cet empire-là, c'est Babylone. Elle a une ambition, une séduction, une affliction, une intimidation. Elle a une grande ambition, la Bible nous dit. Dans Jérémie, le 47e chapitre, tu pourras le lire à la maison. Dieu regarde Babylone puis il va déclarer ses ambitions. Puis il va dire, tu as voulu venir comme un fleuve. Et tu as voulu remplir le monde entier, couvrir le monde entier. Et Dieu va dire à cet empire-là invisible, il va dire, si c'était possible, il va littéralement dévoiler les ambitions de l'ennemi de cet empire babylonien invisible alentour de nous. Et le Seigneur va dire ses paroles et ses pensées dans son cœur, va dire, tu t'es dit, je remplirai la terre, je couvrirai la terre. Je détruirai, tu liras dans Jérémie 47, je détruirai chaque ville et chaque être humain. Maintenant, notez bien ces paroles ce soir. Je vous garantis une chose, si l'ennemi pouvait, des génocides humains, des charniers humains comme il a fait en Bosnie-Herzégovine, comme au Moyen-Orient, comme en Rwanda, comme les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, si l'ennemi pouvait le faire partout dans le monde, il le ferait. Il ferait, c'est le Seigneur qui le retient. Il y a des endroits où malheureusement il restait avant de percer. L'ennemi cherche chaque ville, et même Montréal, et même Longueuil, chaque être humain, il a des ambitions de se répandre comme un fleuve, la Bible nous dit. Écoutez-moi bien ce soir. Je suis convaincu que si l'ennemi pouvait, il tapisserait toutes les rues alentour de toi de sensualité, de valeur antichrétienne. S'il pouvait tapisser toutes les murs où tu regardes de tentation, il le ferait. Parce que son ambition est extrêmement grande. Il a une grande ambition. Il exerce une œuvre de séduction. Maintenant, que vos yeux s'ouvrent en tant que chrétien ce soir. Écoutez-moi bien. Afin de nous faire saisir la gravité de la situation et qu'il n'y a pas de zone démilitarisée entre le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Il n'y a pas une zone démilitarisée où ce que tu dis, mais écoute, moi je suis en vacances là, tu sais, je suis dans le royaume de Dieu, moi je suis dans le palais du Seigneur, moi je suis juste... Non, non, il y a une guerre spirituelle. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone démilitarisée. Il y a ou bien l'empire du monde qui fait la guerre à Dieu, ou bien l'empire de Dieu. Et afin que tu comprennes, que tu puisses comprendre ce soir et saisir l'ampleur et la gravité de la situation, le Seigneur Jésus donne des images très graphiques. Le Seigneur Jésus est parfois brut dans ses paroles. Il va la personnifier comme une prostituée, comme une femme séductrice qui veut attirer, comme une femme attire un homme, comme une prostituée sensuelle vient et attire un homme, comme proverbe. Quelle image puissante dans les proverbes de cet empire qui veut détruire ta vie. L'homme, la Bible le dit dans proverbe, l'homme marche d'un côté de la rue, puis la sagesse dans les proverbes, elle crie, elle dit, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de traverser la rue parce que la femme l'invite, puis à l'époque, les femmes étaient toutes voilées comme ça. Il y a même, l'histoire nous dit qu'il y a une période dans l'histoire que la femme faisait juste comme un peu sortir ses cheveux pour montrer qu'elle était une prostituée. C'était pas facile. C'est la voir. Puis elle l'invite, elle lui sourit, elle l'invite dans sa maison. La Bible dit, elle le couche dans son lit, mais sa maison penche sur une falaise de la mort et les deux tombent ensemble dans la mort. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là? Il s'est laissé séduire. Savez-vous qu'est-ce que la séduction? La séduction, c'est de laisser quelqu'un fermer tes yeux. Après, tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu ne comprends plus. Nébuchadnezzar a eu une vision que Daniel a expliquée. Il a dit au roi, tu as vu une grande statue immense, extrêmement impressionnante. Et notez ceci, la Bible dit, et c'est Dieu, Daniel a dit au roi, ô roi, alors que tu te couchais le soir, Dieu t'a donné cette vision-là. Dieu t'a montré cette statue afin que tu comprennes. Puis écoutez-moi bien ce soir. Dieu a mis ces écrits-là dans la parole de Dieu ce soir afin que tu comprennes l'ampleur et la gravité de la situation. La Bible nous dit, sa tête était d'or pur comme. Le matérialisme, l'argent, négliger Dieu, travailler, acquérir des biens matériels, de plus en plus de biens matériels, se vêtir, fashion, la mode. Prenez garde, je ne sais pas vous habiller comme des moines la semaine prochaine, mais prenez garde. La Bible nous dit que sa tête était comme de l'or. Tu regardais cette statue-là, wow! L'or ne laisse personne sans effet. Si je sortais un lingot d'or de ma poche ce soir, je dirais, le premier sous-stage que je te donne, tu viendrais le chercher, hein, sans même penser peut-être qu'il y a peut-être un piège sur ton chemin. La Bible nous dit que la tête de la statue était d'or. Et quelle image! Nébuchadnezzar qui a eu la vision se lève le lendemain matin pour lui comprendre les Écritures de Dieu, il fait faire une statue d'or. Puis là, il y avait tout le peuple. La Bible nous dit qu'elle faisait comme 27 mètres de haut, si je ne me trompe pas, une espèce de chose extraordinairement haut et grand. Et tout le peuple doit venir à Babylone. Et la Bible nous dit qu'ils se sont tous prosternés, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Quelle image d'un monde invisible dans lequel il y a cet empire babylonien, encore aujourd'hui, qui veut juste une chose de toi. Ah, tu peux le prosterner devant Dieu après. Tu peux aller à l'église après. Prosterne-toi aussi devant le matérialisme. Poursuis les biens matériels. Regarde la statue, regarde sa tête d'or, marche vers elle et tu vas t'enrichir. Prosterne-toi et tu vas prospérer. Et encore aujourd'hui, il y a cette Babylone invisible qui a de grandes ambitions et un désir de séduction. Faire à croire, parce que exactement comme dans l'Empire romain, l'histoire nous dit que durant l'Empire romain, savez-vous comment les Romains ont réussi à amener la paix dans tout leur royaume? C'est qu'ils disaient à chaque peuple, vous pouvez adorer votre Dieu, mais aussi l'empereur. Tu peux adorer Dieu, tu peux adorer à Apollon, whatever, tous tes dieux grecs ou machin truc, mais il faut aussi que tu adores l'empereur, César. Et c'est là que les chrétiens ont commencé à persécuter de plus en plus. Parce que les autres, ils disaient, non, on adore juste le Seigneur Jésus. Ça, c'est une cause en partie de leur persécution. Quel symbole, quelle illustration d'un monde alentour de toi qui te dit, tu peux adorer Jésus, tu peux aller à l'Impact Jeunesse, tu peux aimer le Seigneur Jésus dans tout ton cœur, mais adore aussi d'autres choses. Garde aussi d'autres petites passions et désirs cachés dans ton cœur. C'est pas grave. Parce qu'elle a une œuvre de séduction. Elle a une œuvre d'affliction. Qu'est-ce que je veux dire par une œuvre d'affliction? C'est qu'après avoir séduit, Babylone détruit des vies. Pas besoin ce soir de vous citer des statistiques. Vous le savez, ça serait répétitif. Nous n'avons jamais vu autant de jeunes au Québec consommer des pilules pour passer à travers la journée. On n'a jamais vu ça. C'est impossible. Ça n'a pas de bon sens. Je n'ai jamais vu autant la population québécoise consommer des pilules pour se réveiller, pour traverser la journée, pour se coucher. Parce qu'ils ont mal. Parce qu'ils sont affligés. Parce qu'il faut les geler avec quelque chose de légal. Et j'ai déjà parlé de ça une dernière semaine. Oui, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. Oui, il y a des personnes que médicalement, c'est vraiment important pour eux. Mais il y a une majorité, il y a une bonne proportion de Québécois qui ont mal dans l'âme. Parce que Babylone les afflige. Babylone les a séduits. Babylone les afflige. Et sa maison penche sur la mort. Les gens vont rire de ce message peut-être parce qu'on va le faire jouer à la radio. Les gens vont peut-être dire complètement fou, détraqué. Mais on va prier quand même pour ces personnes-là. Parce que le Seigneur Jésus les aime. Elle a une ambition, elle a une séduction, elle a une affliction. Et elle a aussi une intimidation. Je le lis pour vous, ça va apparaître à l'écran. Jérémie, le 51e chapitre. Et le verset 53 nous dit, « Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses. » Regardez-moi ici un instant. Quelle image! Des murs intimidants, des forteresses intimidantes, si hautes. Un jeune qui ne croit plus que Jésus peut transformer sa vie. Moi, je suis d'un côté, le Seigneur Jésus de l'autre côté. Moi, je ne peux pas rêver, Pasteur Chris, de servir Jésus, de faire des grandes choses pour Dieu. Si tu savais ce qui me tient, si tu savais les murs qui me tiennent captifs. Je regarde parfois à servir Dieu. Je regarde parfois à être libre de certains péchés dans lesquels je retombe tout le temps, Pasteur Chris. J'ai l'impression que je ne vois même pas le haut, la hauteur du mur. Je ne peux même pas voir la fin du mur. C'est exactement comme la Bible dit, Pasteur Chris, c'est incroyable. Dieu décrit mon cœur. J'ai l'impression que les murs s'élèvent jusqu'aux cieux. J'aimerais servir Dieu. J'aimerais faire des choses pour Dieu. Mais des fois, je regarde le monde autour de moi, puis j'ai l'impression que ce sont des forteresses imprenables. Je me mets à genoux, je prie pour quelqu'un, je me relève debout, puis il n'y a rien qui a changé. J'ai l'impression que j'ai frappé sur un mur avec mes mains ensanglantées, puis j'ai pas la force de briser quoi que ce soit. Comment est-ce que je peux rêver, moi, changer le monde? Vous n'avez pas souvent entendu des messages à Impact Jeunesse que tu peux changer le monde entier. Je ne crois pas beaucoup à un évangile pour booster, pomper les jeunes, simplement. Non, non, non. Première chose avec laquelle Dieu veut adresser dans ta vie, c'est ce qui te tient captif. Laissez-moi vous dire, un jeune qui n'est plus pris dans une forteresse va devenir naturellement un jeune pour Dieu qui va pouvoir abattre d'autres forteresses. Les jeunes chrétiens qui ne peuvent pas abattre des forteresses spirituelles, c'est parce que dans le secret de leur cœur, sont pris eux-mêmes dans des forteresses. Ça peut être la gêne, ça peut être l'intimidation. Ça peut être quelque chose que je ne nommerai même pas ce soir, mais que toi sais, et alors que je prêche maintenant, le Saint-Esprit fait le monter à ton cœur. Toi, c'est ça. Parce que c'est en train de parler, mais toi, c'est ça qui te tient. Toi, c'est cette chose dans ta vie qui te retient. Ta façon de te voir est comme une immense muraille. Et tu te dis, je ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Je vais faire mon petit chemin, tourner en rond, quand même faire un peu ce que je peux à autour de moi, servir Jésus. Mais rêver aller plus loin pour Dieu. Les murs de Babylone, Pasteur Chris, s'élèvent jusqu'aux cieux. Dieu a tellement bien décrit ma vie. J'aimerais te dire, je n'ai pas fini de lire le verset. quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, oracle de l'Éternel. J'aimerais te dire ce soir, la seule puissance de l'ennemi contre ta vie, note bien ceci, la seule puissance qui reste à l'ennemi ce soir contre toi, c'est l'illusion, c'est le mensonge. Parce que toute la puissance de l'ennemi a été enlevée à la croix. La seule puissance qui lui reste vraiment contre toi, il y a vraiment une puissance ennemie, mais sa seule, c'est la puissance de l'illusion. Ces murs-là sont intimidants, mais si je te disais qu'ils sont de carton, c'est plus pareil. Les murs ne sont même pas obligés de tomber, la Bible dit. Dieu dit, tes murs peuvent s'élever jusqu'aux cieux. Moi, je vais faire un petit trou en dessous, puis je vais remplir la ville de dévastateurs. Savez-vous comment que les Mèdes et les Perses ont conquéri la ville de Babylone en une nuit? Ils ont endigué l'Euphrate, ou le Tigre, pardon, parce que dans la ville passait un fleuve. Il y avait toutes les murailles immenses de Babylone alentour de la ville. Et au milieu de la ville passait une des branches du fleuve. Et alors que les Babyloniens s'enivraient, et cette soirée-là, devant Belshazzar, la main est venue écrire sur le mur. Daniel est venu dire au roi Belshazzar, « c'est fini mon âme, c'est à soir, dic, ciao, fini. » Et cette même soirée, l'histoire nous dit que les Mèdes et les Perses ont endigué cette branche du fleuve qui passait dans la ville, même pas eu besoin de détruire les murs, ils ont passé par en dessous. Et la ville s'est remplie de soldats Mèdes et Perses. Et la Bible nous dit, ils ont poussé des cris de joie dans la ville, ils ont pris Babylone en une seule nuit. Spirituellement, ça c'est juste une illustration, d'une guerre encore plus importante, d'une victoire encore plus triomphante. À l'entour de nous, le monde peut aller de mal en pire. La sensualité peut se répandre comme jamais. Les gens peuvent être violents. On entend parler de phénomène de rage au volant depuis quelques années. Quelque chose qu'on n'entendait pas parler avant. Que le commun des mortels, monsieur tout le monde, devient enragé à outrance en automobile comme on n'a jamais vu. Le mal peut se répandre comme jamais. La Bible dit, c'est pas grave, tu devras pas te laisser intimider. Ça peut devenir de plus en plus difficile dans le monde de gagner des jeunes à Jésus. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas intimider. Les murs de Babylone peuvent s'élever jusqu'aux cieux. Si tu écoutes la voix de Dieu, le Seigneur va te montrer un petit chemin par en dessous, qui s'appelle l'amour et la grâce de Jésus. Pardon de Christ. Et toi, tu t'en allais te battre contre des murailles incroyables. Puis le Seigneur dit, arrête de te battre par tes propres forces. Fais juste croire que moi, je peux changer ta vie. Humilie-toi. Reconnais que tu as besoin de moi. Puis je vais faire passer en dessous des murs de Babylone. Puis tu vas être libre. Les murs de Babylone pourraient s'élever jusqu'au ciel. J'ai aimé tellement cette photo quand je l'ai trouvée. Parce que tu vois le petit monsieur qui est là et qui marche. Hein? Puis quand tu penses à ce texte de la Bible, là, tout à coup, cet homme qui marche avec son manteau et son chapeau devient extrêmement dangereux. Parce que dans un instant, d'une façon quelconque, il peut se retrouver là au bord du mur, en train de pousser un cri de joie et de dévaster la ville au complet. Laissez-moi vous dire, tu peux entendre des nouvelles comme jamais, des décisions du gouvernement, de légalisation du cannabis, de ci, de ça, des choses qui entrent dans les écoles qui n'entraient pas. On est dévasté, on est abattu de voir des machines à condom dans les écoles ou de voir de l'enseignement homosexuel alors qu'on enlève l'enseignement religieux dans les écoles. Laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas intimider. Ça n'a jamais surpris Dieu. Dieu n'est pas au dépourvu, Dieu n'est pas abattu. Les murailles de Babylone pourraient s'élever plus haut que jamais au Québec. Dieu va dévaster la ville avec des grands conquérants. Ça, c'est vous. L'ennemi peut enlever les pasteurs des écoles, mais l'ennemi ne peut pas enlever les chrétiens des écoles. Comprenez-vous? Il y a 3 ans et demi de ça, le pasteur Béa, puis moi, on est allé dans une école secondaire. En 10 minutes, on s'est fait mettre dehors parce qu'on est pasteur. On s'est fait mettre dehors parce qu'on est pasteur. Mais l'enseignant homosexuel, lui, peut rentrer dans l'école. Ça, ça m'a abattu longtemps, jusqu'à temps que je lise ce texte-là. Hey! Christian Allum, les murs peuvent être plus hauts que jamais. C'est pas grave. Il y a quelque chose, Christian, pour toi dans les écoles. C'est les jeunes. Quelque chose dans les universités. C'est les jeunes. Je peux peut-être pas, moi, rentrer dans certaines tours à bureaux, mais peut-être que toi, tu travailles là. Moi, je peux pas rentrer dans les écoles, mais peut-être que toi, t'enseignes là. Je peux peut-être pas rentrer dans certaines usines et aller prêcher l'Évangile, mais toi, t'es là. Je peux peut-être pas parler combien de fois par semaine je vais dans un dépanneur. Peut-être 25 fois, chercher une barre de chocolat. Mais écoutez-moi bien. Combien de fois par semaine que je suis dans un dépanneur quelque part en train de faire mon jogging, puis j'achète ma bouteille de Gatorade, puis je me dis, s'il y avait moins de monde dans le dépanneur, peut-être que je pourrais parler de Jésus. Mais il y a des jeunes qui travaillent dans les dépanneurs, puis qui sont chrétiens. Des jeunes chrétiens qui travaillent chez Subway. Qui travaillent chez McDonald's, Tim Hortons. Name it! Nommez-les! Peut-être les murs sont plus hauts que jamais. Mais toi, tu es l'autre côté du mur. Toi, tu peux dévaster la ville. Comprenez-vous? C'est incroyable. Moi, je suis un pasteur. C'est incroyable. Moi, parler de Jésus parce que je suis pasteur. Les préjugés. Mes voisins parlaient de Jésus. Mais quand ma femme leur parle de Jésus, là, ils écoutent plus. C'est pas grave. J'ai ma femme. Ces murs peuvent s'élever plus que jamais. Le Seigneur va quand même remplir la ville de jeunes qui vont dévaster le mal en proclamant Jésus-Christ. Amen. La réalisation de son existence, et je termine ce soir en vous disant, la destruction de son influence. La Bible nous parle de la destruction de son influence. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce qui est fascinant, c'est que la Bible nous dépeint un empire extrêmement élevé, un empire extrêmement puissant, mais quel paradoxe! Aussi haut que les murs de Babylone peuvent s'élever, aussi intimidante qu'elle peut être, comment elle peut ravager le monde et désirer se répandre comme un fleuve et couvrir toute la terre entière, comme ça dit dans Jérémie 47. Le Seigneur dit, en un instant, dans l'Apocalypse, ça dit, en une heure, tout ce que tu as vu, la mer, les sept montagnes, la bête, la prostituée dessus, qui était sur tout le monde entier, le Seigneur dit, en une heure, t'es tout tombé! Daniel voit la statue immense, intimidante, de fer, de bronze, d'argent, d'or. T'as l'impression que tu voudrais frapper la statue, tu te ferais mal. Puis tout à coup, la Bible dit, il y a une roche qui frappe pas la tête de la statue, qui frappe pas le chest, la poitrine de la statue. Elle frappe ses pieds. Parce que ses pieds étaient d'argile et de métal mélangés. L'empire du monde a l'air tellement fort, hein? Tellement puissant. Alors qu'un samedi après-midi, à 16 heures, je dois donner une claque d'en face à ma fille, pour pas qu'elle regarde l'annonce de bière à caractère pornographique qui est en train de passer là. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis je fais ça, puis ça. Puis tout ce que j'entends, c'est... OK, super, annonce de Tide, on peut regarder. Et encore. Il y a une frustration dans mon cœur. J'ai l'impression que l'empire babylonien est tellement grand, tellement puissant. Le Seigneur a dit, laisse-toi pas intimider. Il y a une roche qui s'est détachée d'une montagne. Sans la main de personne, la Bible dit. Jésus n'a pas besoin de personne. La roche, c'est Jésus. La Bible nous dit que la roche a frappé les pieds de la statue. Et la Bible nous dit que toute la statue s'est effondrée. L'or, l'argent, le métal, toute sa puissance est devenue comme de la farine, comme de la poussière, s'est pulvérisée. Elle a été emportée par le vent pour ne plus jamais exister. J'aimerais te dire ce soir, il existe une vie de victoire pour les enfants de Dieu, où il n'y a plus rien, il n'y en a plus de statue. Ça, là, ça se traduit pas en français. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus de statue. Dans ta vie. Fini! Plus d'idoles! Oublie ça, American Idol. Fini!
On n'en a pas besoin des American Idol. On n'a pas besoin des Canadian Idol. On n'a pas besoin des Star Academy. Ma star, c'est Jésus. Mon idol, c'est Jésus. Can you get that? Écoute-moi bien maintenant. La Bible nous dit, en une nuit, l'Empire est tombé. L'Apocalypse dit, en une heure est tombé. Dans la vision, ça dit, la pierre a fait tomber ça. Boum, c'était fini. Écoutez-moi bien. Il existe une victoire, les jeunes, pour vous, dans vos vies personnelles, sur n'importe quel statut qui t'intimide, n'importe quel statut devant lequel tu fléchis les genoux, parfois. Il existe une victoire et son nom, c'est Jésus. Maintenant, comment marcher dans cette victoire-là? Rapidement, en terminant ce soir, j'invite les musiciens à s'approcher, mais j'aimerais vous montrer comment marcher dans cette victoire-là. Premièrement, par la séparation. La Bible dit, voici un avertissement pour chacune de vos vies ce soir. Fuyez, sortez de Babylone, soyez comme des boucs à la tête du petit bétail. Regardez-moi ici un instant ce soir. La Bible dit, notez-moi bien, maintenant, alors que le musicien s'approche, c'est extrêmement important, vous devez m'écouter. Fuyez, la Bible dit, sortez de Babylone. Écoutez-moi ce soir. Le 11 septembre 2001, au matin, à 8h30, si je t'avais dit, descends les 90 étages, sinon tu vas mourir. Si tu as cru, si tu croyais, là, crois-moi, tu aurais descendu rapidement. Il y a une dame qui travaille à l'église de Times Square Church à New York. Et le pasteur Patrick Pierre m'a raconté son témoignage. Elle était là, là. Puis elle s'est mise à courir sur la rue, ça tombait, là. Puis elle dit, je courais, puis je voyais les gens courir, puis des businessmen, des businesswomen, ça courait. Puis elle dit, les femmes, là, ils ont des talons hauts, hein, puis il y en a qui sont très en moyenne, des souliers à 1000 $, à 500 $, des souliers en cuir italien. Puis elle dit, je courais sur la rue, puis elle dit, tout ce que je voyais sur la rue, là, avant que les débris tombent, elle dit, c'était des souliers partout. Il y avait des souliers partout, mais je dis, oh, pas pire, ça. Puis elle courait sur la rue, puis elle voyait juste des souliers. Ça vaut pourquoi? T'as pas le temps de niaiser. Ça va te tomber dessus. T'enlèves tout ce qui te ralentit. Puis tu fais juste une affaire dans la vie, tu cours. En anglais, on dit « run for your life ». Tu cours pour vivre, man. Je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus a dit qu'il allait tomber un jugement sur l'Empire Babylone. Sur le monde, il y a un malheur qui tombe. À chaque jour, le jugement de Dieu a déjà commencé à tomber sur le monde. Écoute-moi bien ce soir. Si tu as un doigt, tu vas le perdre. Si tu as un pied dedans, ça va te tomber sur le pied. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas avoir un pied à Babylone et un pied dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, avec une urgence, une grande urgence dans Jérémie, sortez de Babylone, fuyez de Babylone. Maintenant, ce soir, sans mettre de pression, sans crier, je te tends la main avec beaucoup d'amour. Y a-t-il un aspect de ta vie qui est à Babylone? Est-ce que Babylone est en toi? Parce que Dieu cherche tout ce qui est de Babylone et Dieu fait la guerre à Babylone. Et Jésus a parlé avant d'aller à la croix en disant ces mots. Satan n'a rien en moi. Si je dois prendre l'avion et que j'ai oublié mon passeport chez toi et que je n'ai pas des valeurs chrétiennes et que je dois prendre l'avion et mon passeport est chez toi, et les portes sont barrées, je vais aller chercher. Tu comprends ça? Boum! Je vais défoncer la porte, puis je vais aller chercher mon passeport chez toi. Savez-vous qu'est-ce que l'ennemi fait? Il fonctionne comme ça. Viens! Viens, 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 viens. Viens, viens ici. Hey man, j'ai de quoi de super pour toi, man. Ça va vraiment triper avec ça. C'est vraiment cool. Tiens, prends-les. Cool, man. All right. Hey, je te le donne, man. Je suis cool, hein? Tu me le redonnes après? Okay, c'est juste pour l'illustration. L'ennemi fait pas exprès. Il veut que tu quittes avec quelque chose qui est à lui. Après ça, tu peux barricader ta vie. Lui, il s'en balance complètement. Il va tout défoncer puis il va venir le rechercher. C'est pour ça que Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi. Il regarde, y a-t-il quelque chose qui lui appartient? Y a-t-il quelque chose qui est venu mettre dans mes... Ah, je peux aller chercher. L'ennemi fait par exprès. Et là où il y a quelque chose de l'ennemi, la Bible nous dit que le jugement de Dieu va tomber. Puis l'ennemi le sait. Il dit, oh, man, si je veux que la colère de Dieu tombe sur lui, tiens, joue avec ça. Joue avec. Vas-y, juste une fois de temps en temps. Tu diras pardon au Seigneur après. Ah, demain, je vais arrêter. Super. Cette phrase-là vient du pit de l'enfer. Demain, je vais arrêter. Ça, c'est écrit en enfer, cette phrase-là. Parce que là, il sait que la colère de Dieu va tomber sur lui. Parce que, hop, tiens, prends ça, je te le donne. Tiens. Poursuis les choses du monde. Hey, néglige l'Église pour le travail. Hey, permets-toi de louer un film 16 ans et plus. Hey, un film avec de la violence, de la sensualité. Hey, écoute, c'est pas pornographique quand même. Là. Puis t'en lances des choses comme ça. Parce qu'il sait que tout ce qui est de Babylone attire la colère de Dieu. Et Dieu, dans son amour, te dit, fuis Babylone. Prends même pas de chance. T'es pas sûr? Prends pas de chance. T'es pas sûr? Pensez-vous que les gens se sont dit, je suis sorti du bâtiment, là. Les Twin Towers, là, je suis sorti du bâtiment. Ça n'a pas le droit de tomber sur moi. On s'en fout. Tu cours le plus loin que tu peux. C'est ça que Dieu dit dans la parole. Fuis. Prends pas de chance. Y a-t-il de la musique dans ta vie qui te draine, qui t'éloigne de Dieu? Quoi que ce soit, une émission de télévision, quoi que ce soit, un film que tous les chrétiens disent que c'est correct, mais toi, tu sens dans ton cœur que t'es pas certain. Prends même pas de chance. Parle-en pas, juge pas les autres. Va pas faire un cas avec ça. Mets-toi pas sur la place publique en dénonçant tel truc ou si les gens autour de toi. C'est pour toi que tu fais. C'est tout. Tu gardes ça en toi, puis Seigneur. Mais il y a une chose que tu veux être certain. Tu veux sortir de Babylone. Parce que si Babylone a une chose dans ta vie, la destruction de Dieu va tomber. Jugement de Dieu tombe. Bang! Si t'as un pied dans Babylone, ça va tomber sur toi. La Bible dit ça. Fuyez, sortez de Babylone. Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Ça ne veut pas dire que ce soir, tu dois rentrer dans ton appartement, ouvrir la fenêtre, lancer ta télévision sur la rue en bas, ou prendre, débrancher ton ordinateur, puis faire une cérémonie, puis pendre ton ordinateur avec le câble. Yes! Yes! Non, 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 non. Là, tu vis dans une espèce de monastère. Parce que là, Pastor Chris a dit, il faut sortir de Babylone. Ah, là, j'écouterai plus de sport. Le sport, ça vient de Babylone, le sport. Mon Dieu, je vais arrêter de jouer au basketball. Non, 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 non. Est-ce que le basketball est une passion? Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin, du mal. Savez-vous c'est quoi sortir du monde? Savez-vous c'est quoi sortir de Babylone? C'est pas d'arrêter de vivre. C'est de n'avoir comme seule passion dans ta vie Jésus-Christ. Seule passion, pas d'autre. Dieu ne tolérera pas aucune autre passion dans ta vie. Que tu sois né dans une famille chrétienne ou que tu sois un tout nouveau chrétien qui, ben là, moi je commence à être un chrétien, mais on peut-tu me laisser un peu respirer? Non, 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 non. C'est les mêmes standards pour tout le monde. Peu importe d'où tu viens et qui tu es, Dieu te demande juste une chose. Je ne tolérerai pas, moi, l'Éternel, que tu aies une autre passion dans ta vie. Ça va? Tu peux juste arrêter la guitare un instant. Ça va comment qu'on peut savoir si tu as d'autres passions dans ta vie? Super facile. Si je te présente ça, ce soir, comment est-ce que tu réagis? Quel est ton instinct? Quelle est ta réaction spontanée à ça? Tout de suite, je sais si c'est une passion. Et si je te présente n'importe quoi d'autre dans la vie, si ça vient inné en toi, on va-tu au cinéma? Ah, il y a ce cinéma-là. Ah! I got it. Je l'ai trouvé. On va-tu s'approcher du Seigneur? Ah, faut m'asseoir. Ouais, pas de bon film à TV. OK, moi, à l'église. On va-tu au basketball? Ah, oui, basketball. Ouais, je vais au basketball. Tu comprends-tu? Dieu n'a rien contre le basketball. Mais là, ça a pris une disproportion. C'est disproportionné. C'est que là, maintenant, c'est devenu une passion. Écoutez-moi bien. Là, je vois que personne ne rit de ce que je vais dire. On va-tu magasiner? Riez pas. Pas le droit. On va-tu magasiner? Shopper? Ah oui, j'ai besoin de ça. Faut que je m'achète ça. J'ai besoin de nouveaux chandails. J'ai besoin de nouveaux souliers. J'ai besoin de ça. Ah mon Dieu, on va les magasiner ensemble. Tout à coup, ça monte en dedans de toi. Ah, ça. Passion. On sort. Ah oui, on sort. On va s'approcher de Jésus. Ah OK, on va s'approcher de Jésus. Passion. C'est tout ce que Jésus regarde. Tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. Toutes les murs vont tomber. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux jouer de la musique à l'église de Bellevue. Il y a une pratique de musique. Oh yes, moi, la musique. Mais là, tu ne joues pas de la musique. Adorez Jésus. Je suis musicien, il faut que je sois un exemple. Dieu regarde au cœur. Puis Dieu te demande une seule chose, la passion. Puis je vous dis avec beaucoup d'amour ce soir, marquez mes paroles. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je suis un gentleman, je vais être comme le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Une automobile peut être une passion. N'importe quoi. S'il y a quelque chose d'autre qui est ta passion, qui te fait vibrer sans aucun effort, c'est Babylone qui a quelque chose dans ta vie. I'm telling you. Je te le dis avec beaucoup d'amour ce soir. Moi, je vais rendre compte à Dieu d'avoir eu le courage de le dire. Et toi, tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu vas faire avec ce que tu vas avoir entendu ce soir. S'il y a un pied dans Babylone, Dieu t'avertit avec beaucoup d'amour. La colère de Dieu s'abat sur Babylone à chaque jour. Et si tu as un pied dans Babylone, ça va tomber sur toi, c'est certain. C'est certain, certain, certain. C'est pour ça que Jérémie dit « Fuyez Babylone ». Comment allons-nous vaincre, marcher dans une vie triomphante? Comment allons-nous vaincre Babylone? Il faut que tu sortes de là. Deuxièmement, par la foi. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas commencé à jouer, c'est correct, je ne suis pas fâché. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Jean a dit, dans 1 Jean 5, il a dit ceci. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es un chrétien, le plus grand appel de Dieu sur ta vie, c'est que tu triomphes de toutes les mauvaises passions, de tous les mauvais désirs, de tous les péchés, que tu puisses triompher et être libre. Libre de l'engourdissement spirituel. Libre de la religiosité. Libre de suivre Dieu avec une routine. Libre de la critique et de la médisance, de juger les autres alentour de toi. Libre de constamment te comparer aux autres. Libre de penser que tu es inférieur et moins important pour Dieu. Libre de penser que Dieu n'a pas pensé à toi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dois triompher. Maintenant, comment? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici ce qui triomphe du monde, notre foi. C'est quoi le désir de Dieu? C'est le prochain verset. Tu peux le mettre. Ça dit, Dieu parle à Babylone et dit, « Je te remplirai d'hommes qui pousseront des cris de joie contre toi. » C'est quoi le désir de Dieu? C'est que dans une société comme la nôtre, il y a des centaines et des centaines et des centaines, que ce soit des préadolescents, des adolescents avec Dave, des jeunes adultes, les jeunes mariés la semaine prochaine avec Yvan. Dieu veut des gens heureux qui poussent des cris de joie, qui ne sont pas abattus, qui ne sont pas vaincus, qui sont heureux, qui poussent des cris de joie. Que les jeunes mariés poussent des cris de joie. C'est le désir de Dieu. Dieu veut remplir cette société de gens heureux. Je te remplirai d'hommes qui pousseront des cris de joie contre toi, Babylone. Dieu veut montrer à Satan qu'il est capable de remplir Longueuil puis Montréal de gens heureux. Toi qui as voulu détruire tous les hommes, je te remplirai d'hommes qui pousseront des cris de joie contre toi. Dieu veut que les GI, les groupes impact, les jeunes adultes qui se rencontrent dans les maisons, qu'il y ait de la joie. Vous riez ensemble, vous avez faites des blagues, vous allez au restaurant après avec nous, ce soir vous donnez un super de bon type, hein, parce que vous êtes chrétien en passant, puis vous avez un temps ensemble, puis vous êtes des chrétiens ensemble, puis ça rit au restaurant, sans se lancer des glaces, puis niaiser, ça rit au restaurant, nanana. Dieu veut ça! Pour que la waitress arrive, elle dit, mon nom, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Sont-ils gelés, ont-ils bu? Non, non. Ils sont à jeun. Ils sont heureux à jeun. Hein? Oui, ils sont heureux à jeun. Je te remplirai de cris de joie des gens heureux, le Seigneur a dit. Comment vaincre Babylone? En terminant ce soir, par la compassion. Le Seigneur a besoin de toi, rempli d'amour pour les gens qui sont loin de lui. Écoute-moi. Dans Jérémie, ça dit, « Rangez-vous en ordre de bataille. » Tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont des chrétiens, Dieu lance un appel dans Jérémie. puis il dit, mettez-vous, rangez-vous en ordre de bataille. Arrêtez de niaiser avec vos vies. Rangez-vous en ordre de bataille et attaquez Babylone. Dieu dit ça. Il dit, tendez l'arc, attaquez Babylone, remplissez-la. Faites la guerre à Babylone. La peine de Dieu sur ta vie, c'est que tu te lèves debout et que tu attaques Babylone. Maintenant, savez-vous comment on attaque Babylone? L'apôtre Paul l'a dit. Nous renversons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Puis il va dire à un autre endroit, nous ne savons même pas comment prier. L'apôtre Paul lui-même va dire ça. On ne sait même pas comment prier. Mais le Saint-Esprit vient à notre secours et il nous donne des soupirs inexprimables. Donne-moi un jeune qui verse des larmes pour les gens autour de lui. Je te donne un conquérant. Donne-moi une jeune femme qui va aller travailler demain ou lundi, qui va verser des larmes pour les gens autour d'elle qui ne sont pas chrétiens. Elle est en train de conquérir Babylone. Donne-moi un jeune homme qui commence à avoir de l'amour pour les gens autour de lui. Il est en train de conquérir Babylone. Donne-moi un chrétien qui cesse de s'inquiéter pour sa propre vie, qu'est-ce qui va arriver demain, parce que Dieu tient toutes choses et qui se met à se soucier des gens autour de lui. Il est en train de conquérir Babylone. Donne-moi un chrétien qui aide à l'entour de lui, qui a de l'amour, qui fait de quoi, que ça vibre en dedans, il aime les gens autour de lui. Il est en train de conquérir Babylone. Verse des larmes dans ton auto, regardant les gens marcher sur la rue, parce qu'ils vivent sans Dieu. Tu es en train de conquérir Babylone. Aime, fais le bien, donne-toi. Pense aux autres, tu es en train de conquérir Babylone. Parce que Babylone est égocentrique. Le royaume de Dieu est christocentrique. Veux donner. Donne-moi un chrétien qui arrête d'être le nombril du monde. Là. Toujours lui, je mets moi. Qu'est-ce que je reçois à l'église? Qui commence à se soucier des gens autour de lui. Donne-moi un jeune qui, au lieu de sortir en courant quand on va faire l'appel, va découvrir que son ami est en avant. Il va aller mettre son bras autour de lui puis va prier avec. Il est en train de conquérir Babylone. Savez-vous comment on va conquérir le monde? En priant. Savez-vous qu'est-ce qu'on a besoin, Pâques Jeunesse? De prière par-dessus tout. C'est la prière qui va changer le monde. Je m'en vais à chaque personne ici de fermer les yeux, pencher la tête ce soir, j'ai terminé. Peut-être juste la guitare pour l'instant. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce soir dans ce lieu, je vais faire un appel pour toi. Tu veux dire, Pasteur Chris, j'ai besoin de sortir de Babylone. J'ai besoin de fuir Babylone. La seule chose que ça te demande maintenant, c'est de mettre ton orgueil de côté, de venir humblement devant Dieu et de dire, je reconnais, il y a une passion dans ma vie qui n'est pas Jésus-Christ et je veux la tasser de côté. J'aimerais que tu puisses, ce soir, prendre une décision qui peut changer ta vie. Changer ta vie pour toujours. Hallelujah. Regardez-moi ici un instant ce soir, s'il vous plaît. Cet après-midi, dans la prière, le Seigneur a parlé à mon cœur, puis il m'a dit, tu vas leur dire ça, puis j'avais oublié, je vais vous le dire ce soir. Il y a des jeunes ce soir, vous devrez rentrer à la maison, il y a des choses qu'il va falloir que vous jetiez. Des logiciels, des jeux vidéo, des films que tu as achetés, de la musique, il y a des choses que j'ai peut-être pas nommées, il y a des vêtements qu'il va falloir que tu jettes. J'ai une fille à la jeunesse qui a beaucoup touché mon cœur avec son témoignage. Isabelle et whatever. Que quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a acheté des poches de linge au complet. Elle a acheté ce linge-là. C'est des milliers de dollars. Là. Parce que c'était du linge qui ne glorifiait pas le Seigneur Jésus. Elle l'a acheté. Du linge sexy, sensuel, elle l'a acheté. Des jeunes ce soir, le plus grand appel auquel vous allez répondre ce soir, vous allez acheter des choses. Vous allez rentrer à la maison, vous allez acheter un bouquin, un livre, des romans d'amour qui te font rêver des relations avec quelqu'un, il faut que tu jettes ça. C'est pas de Dieu. C'est une passion qui n'est pas correcte dans ta vie, qui te détruit. Quoi que ce soit, quelque chose que je n'ai même pas nommé, mais écoute-moi bien, il faut que ça sorte de chez toi. Il faut que ça sorte de ta vie. De la rancune, de l'amertume, de la colère, il faut que ça sorte. Tout ce qui est de Babylone va être détruit. Tu ne veux pas avoir ça dans ta vie. Fuyez Babylone. Ce soir, je vais vous demander s'il y a quelque chose dans ta vie qui doit sortir. Je vais te demander de te lever, sortir de ta place et de venir ici, tout de suite, sans hésiter. Seigneur Jésus, je veux faire le ménage dans ma vie il y a une passion dans ma vie, Seigneur, et je veux l'enlever parce que je veux t'appartenir complètement, Seigneur. Satan n'aura rien en moi. Babylone n'aura pas aucune possession dans ma vie. Il n'y aura pas un ongle de aucun de mes doigts qui ne sera dans la ville de Babylone. Ce soir, je veux me mettre en règle avec Dieu. Je viens tel que je suis. Certains, c'est l'amertume, des blessures que tu as eues, des gens t'ont déçu. Tu dois venir leur pardonner ici en avant. Ne garde pas l'amertume, elle vient de l'ennemi. Ne garde pas ça alors que le Seigneur peut te transformer, faire un miracle dans ta vie, faire grandir, émerger un pardon dans ta vie. Ne garde rien, ne garde rien. Viens tel que tu es. Donne-le au Seigneur Jésus ce soir. Repens-toi de tes péchés, je le demande dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Fuyez, sortez de Babylone, comme les gens ont fui les tours qui tombaient. Seigneur Jésus, je veux me mettre en règle avec toi ce soir. Je ne garderai rien dans ma vie. Je ne résisterai plus au Saint-Esprit. J'ai trop résisté. Je vais me mettre en règle avec Dieu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Je vais faire un dernier appel ce soir. Je vais faire un appel pour tous ceux qui sont à l'arrière. À prier pour quelqu'un ce soir. Il y a des gens, vous allez prier pour quelqu'un qui n'est pas ici. Il y en a d'autres, vous allez prier pour quelqu'un qui s'est avancé à l'appel ce soir. Nous avons besoin de conquérir Babylone par la prière. Il faut prier, il ne faut pas que rien nous empêche d'avoir des moments de prière ce soir. Alors, on va se lever tous ensemble, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui sont à l'avant. Il y en a qui sont prosternés, pas de problème. Dan va nous conduire dans un temps de louange, d'adoration, de prière. Viens mettre ta main autour de quelqu'un ce soir. Hallelujah. Jesus, mais prie pour quelqu'un. Et ceux qui sont à l'avant ce soir, ne laisse rien. Ne laisse rien ce soir, hallelujah, dans ta vie qui appartient à l'ennemi. Jesus, hallelujah. Precious God.